6h sur Europe 1, bon réveil.
Je suis presque prête à me faire vacciner. C'est un espoir de pouvoir rompre cet isolement. Donc on attend ceci avec impatience.
Ah oui, l'espoir pour les seniors de plus de 75 ans qui vivent hors EHPAD. Ils pourront se faire vacciner à partir de la fin du mois, avec la perspective de retrouver peut-être un semblant de vie normale. Pas de retour à la normale en revanche. Pour les restaurants, ils ne rouvriront pas le 20 janvier. Vous entendrez dans ce journal la lassitude du chef Philippe Etchebest. Après les masques, les tests et peut-être les vaccins, la France va-t-elle manquer de munitions? C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire. Dans ce journal, nouveau tour de vis en Allemagne qui prolonge ses restrictions pour au moins un mois. Le gilet jaune boxeur Christophe Dettinger va-t-il toucher les 145 000 euros récoltés sur sa cagnotte? Les juges doivent se prononcer aujourd'hui. Et puis 6 janvier, jour de l'épiphanie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous mettre derrière les fourneaux pour préparer votre galette. Reportage croustillant à la fin de ce journal.
À suivre les sports avec Jérôme Lacroix. Et justement, à propos de l'épiphanie, c'est un roi mage qui est avec nous en guise d'invité inattendu ce matin. Il avait joué Balthazar, souvenez-vous, au cinéma au début des années 2000. Allez, je vous donne un indice, c'est l'un des trois inconnus qui est avec nous à 6h15. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'une des mesures promises par le gouvernement pour amplifier le rythme de la vaccination en France. Les personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent chez elles pourront se faire administrer une dose d'ici la fin du mois. Et cela concerne plus de 5 millions de citoyens. Alors, sont-ils prêts à se faire vacciner? Théo Manval leur a posé la question.
Bien sûr qu'on voudrait se faire vacciner au plus vite pour éliminer la malchance d'attraper une chose au hasard.
Michel va sur ses 84 ans et il prendra rendez-vous dès que possible pour le vaccin. Car avec son épouse Marie-Vonne, 76 ans, ça fait longtemps qu'ils ne voient plus leurs petits-enfants par précaution.
On est privés d'eux depuis 6 mois bientôt et c'est très dur. Donc on attend ceci avec impatience. C'est un espoir de pouvoir rompre cet isolement, profiter de la famille.
Un espoir partagé par Nicole, 86 ans, qui se pose quand même encore une question.
Je suis presque prête à me faire vacciner. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si avec ce vaccin, on est toujours contagieux.
Et là-dessus, les données manquent encore, même si les chiffres de l'Agence américaine du médicament semblent montrer que le vaccin Moderna empêcherait cette contagion. Du reste, tous les septuagénaires concernés ne sont pas prêts à franchir le pas, à l'image de Marianne.
Il n'y a pas de recul, c'est trop vite. On ne sait pas si c'est dangereux, on ne sait pas s'il y aura des effets secondaires, on ne sait rien. Un vaccin, ça se fait en 10 ans. Donc, je sais qu'il y en aura d'autres et j'attends.
Le gouvernement promet, lui, d'ouvrir le fichier pour s'inscrire en ligne ou par téléphone dans les jours qui viennent.
Et à partir d'aujourd'hui, ce sont déjà les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans qui peuvent se faire vacciner. Plus de 20 000 nouveaux cas ont été recensés en France au cours des dernières 24 heures.
La décision devrait être officialisée demain, mais déjà les patrons de bars et restaurants font le deuil d'une réouverture le 20 janvier.
Les représentants du secteur étaient reçus à Bercy hier et selon nos informations, la perspective s'éloigne de plus en plus. D'ailleurs, aucune nouvelle date n'est avancée. Le chef Philippe Etchebest ne se dit pas vraiment surpris, mais il voudrait maintenant une date de réouverture définitive et sans restriction.
C'était une évidence que nous ne soyons pas ouverts le 20 janvier compte tenu de la reprise des contaminations. Et puis avec les vacances et les fêtes, il était bien sûr aussi évident que ça allait augmenter et qu'on resterait fermé. Bon, la chose positive, c'est qu'on ne pourra pas nous accuser, nous les restaurateurs, d'être responsables de ce qui se passe aujourd'hui puisque nous sommes fermés depuis le mois d'octobre. On a déjà eu des mesures restrictives sanitaires qui étaient très importantes après le premier confinement, qui amputaient beaucoup d'établissements à hauteur de 30, 40, voire même 50% du chiffre d'affaires et le mode économique pour beaucoup n'était pas viable, donc ça ne servait absolument à rien d'ouvrir pour perdre de l'argent. Et si aujourd'hui on nous dit bon ben ok, vous pouvez ouvrir, mais on va vous mettre 8 mètres entre chaque table et à 18h il faut fermer vos établissements, ça ne sert absolument à rien.
Le chef Philippe Etchebest, invité du 18-20 de Julien Bugier hier soir sur Europe 1.
Conséquence plutôt inattendue de la crise sanitaire, après les manques de masques, les manques de tests, la France pourrait aussi faire face à une pénurie de munitions.
Et la crise du Covid révèle des failles dans la souveraineté de la France. En fait, cela fait déjà 2 ans que le pays ne fabrique plus ses munitions. Et aujourd'hui, au Leroy, elles sont toutes produites à l'étranger.
Oui, pour fabriquer les munitions du pistolet ou du fusil d'assaut qui arment les militaires français aussi bien ici, sur le territoire national, qu'en mission à l'étranger, eh bien on fait appel aujourd'hui à des pays européens. Cela fait 30 ans que la France a progressivement arrêté de produire ces petites munitions, notamment parce qu'il faut l'avouer, on n'est pas très bon dans ce secteur, contrairement par exemple aux avions de combat, domaine dans lequel la France excelle. Par ailleurs, remonter aujourd'hui une filière, c'est beaucoup trop cher et ce serait au détriment d'autres armements. Et ce n'est pas du tout un problème d'être dépendant d'autres pays, assure le général Baudouin, ancien responsable des programmes d'armement de l'armée de terre.
Pour le soldat français, l'essentiel, c'est qu'on lui fournisse la meilleure munition, de préférence une munition européenne d'ailleurs. Aujourd'hui, les armes de l'armée de terre, que ce soit le pistolet automatique, que ce soit le fusil d'assaut, que ce soit le fusil de tireur de précision, sont des armes qui sont vendues à des centaines de milliers d'exemplaires partout. Et donc, les sources de munitions sont très nombreuses et sont déjà préexistantes. Donc, il n'y a pas de raison que ces sources se tarissent.
Et en cas d'urgence, eh bien, à côté de chez nous, il y a les Belges et les Italiens qui peuvent fournir à la France des munitions en petit calibre et lui permettre d'avoir des stocks suffisants.
Explication signée Aude Leroy.
À l'étranger, l'Allemagne prolonge ses restrictions pour tenter de lutter contre l'épidémie.
Avec encore près de 1000 morts enregistrés hier, Angela Merkel préfère jouer la carte de la prudence. La chancelière allemande remet donc un tour de vis et immobilise son pays pendant encore au moins un mois. Écoles et commerces non essentiels fermés. Le temps d'en savoir un peu plus sur le variant du virus très contagieux venu de Grande-Bretagne.
Ces mesures ne sont pas seulement la prolongation de celles décidées avant Noël, elles sont aussi plus dures. Avec la réduction drastique des contacts sociaux, des possibilités de déplacement dans les zones de haute incidence et aussi la fermeture des établissements scolaires et des haltes garderies. C'est un énorme défi pour les parents et évidemment pour les enfants, mais nous y sommes contraints. J'ai toujours dit que les mois d'hiver seraient ceux pendant lesquels la pandémie ferait le plus rage. Et combiné à cela s'ajoute la mutation du virus, donc nous devons revenir à un point où nous pouvons à nouveau remonter les chaînes de contamination. Il est très important que les chiffres baissent vraiment de manière claire.
Voilà les mots de la chancelière allemande Angela Merkel au Royaume-Uni. Nouveau record de contamination avec 60 000 nouveaux cas enregistrés hier. Le pays est entré en confinement pour la troisième fois depuis le début de la pandémie.
Et nous serons à Berlin tout à l'heure dans notre revue de presse internationale avec notre correspondante Hélène Kohl. C'est à 7h10. Pour l'heure, il est 6h07 sur Europe 1. Rappelez-vous cette image pendant l'acte 8 des Gilets jaunes à Paris il y a 2 ans. L'ancien boxeur Christophe Détinger en train de frapper 2 CRS au visage, une scène qui lui avait valu un placement en détention provisoire.
Et pendant sa garde à vue, une cagnotte de soutien en ligne avait été créée, 145 000 euros récoltés en seulement 2 jours, avant que la cagnotte soit fermée par la plateforme Litchi, au motif qu'elle pourrait véhiculer un appel à la haine. Aujourd'hui, Justin Morin, c'est justement sur ce point que les juges doivent statuer.
Oui, parce que Christophe Détinger, lui, continue de réclamer son argent, c'est en tout cas comme ça qu'il le perçoit. Alors au cœur du litige, une phrase en particulier dans la description de la cagnotte, la voici. Face à la pression, Christophe Détinger a pris un risque pour défendre les manifestants. Malheureusement, il risque de servir d'exemple, aidons-le dans ce combat, il ne doit pas être le seul à payer. À partir de là, 2 interprétations parmi lesquelles les juges devront trancher. Pour la plateforme Litchi, ce passage laisse penser que cette cagnotte vise à soutenir les actes violents pour lesquels Détinger a été condamné. Selon l'autre interprétation, celle de l'ancien boxeur, cette cagnotte a été créée pour le soutenir, lui et sa famille. Son avocate, Laurence Léger, regrette que des pressions politiques soient venues parasiter le débat.
Christophe Détinger, c'est pas Daesh. On touche à la liberté d'opinion de pouvoir soutenir la cause de son choix, qui n'est pas une entreprise criminelle. La question est qu'on a un contrat et qu'il n'y a pas de raison d'enterrer le pot civil parce que Christophe Détinger ne plaît pas à telle ou telle politique.
Les 145 000 euros de la cagnotte sont aujourd'hui sécurisés, assure Litchi. La plateforme dit attendre la décision du tribunal. En fonction, elle devra débloquer l'argent pour Christophe Détinger ou rembourser les participants.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Et puis cette performance artistique qui a valu à son auteur de se retrouver au tribunal. Gilbert Coquelin, un militant anti-corrida, a été condamné lundi pour avoir lancé des flèches sur un bison en plastique devant un restaurant Buffalo Grill, un projet qu'il a renommé écocide.
Il doit payer 400 euros d'amende pour dégradation de biens d'autrui avec inscription au casier judiciaire, mais il continue de défendre son geste.
Mon travail artistique est intimement lié avec la reconnaissance du crime écocide. C'est l'équivalent pour l'environnement d'un génocide, c'est-à-dire un crime contre l'environnement. Et le message, c'était pour prouver qu'un animal en plastique avait beaucoup plus de droits qu'un animal de chair et d'os. Et tout un arsenal de protection, que ce soit policier, politique, éthique, juridique, chose que certains animaux ou certains aspects de l'environnement n'ont pas. D'autant plus que j'étais habillé en torero le jour du jugement. Mais effectivement, la corrida n'est qu'un aspect et il y en a plein d'autres. Le terme écocide a une vocation à être beaucoup plus large.
Des propos recueillis par Hélène Terzian.
Et puis c'est le jour J pour la galette des rois, 6 janvier, jour de l'épiphanie.
Oui, l'épiphanie, c'est donc aujourd'hui officiellement, mais cela fait déjà plusieurs jours qu'on peut trouver des galettes chez le boulanger. Enfin ça, c'est pour ceux qui n'ont pas été contaminés par le virus de la cuisine depuis le premier confinement. Comme Jessica, elle vit à Bagnolet en Seine-Saint-Denis et elle s'est essayée hier à la galette pour le plus grand bonheur de Pierre Herbulot.
Pas de robot ni même de balance, c'est sans équipement mais avec beaucoup de bonne volonté que Jessica s'attaque à sa première galette des rois.
Je commence par prendre ma poudre d'amande, je rajoute mes 2 œufs et mes 100 g de sucre ensuite.
Alors pourquoi vous faites la galette à la maison ?
Bah, on va dire que pendant le confinement, bah, on va pas se mentir, on s'ennuyait un peu comme tout le monde. Donc bah, on s'est mis à faire des gâteaux, essayer de faire tout maison. Ça sort tout chaud et rapport qualité-prix, il n'y a pas photo.
La crème d'amande termine entre les 2 disques de pâte feuilletée, avec la fève bien sûr.
C'est parti.
Pour les finitions, en revanche, un peu d'aide s'impose.
Alors Jessica, la meilleure dorure pour une galette, c'est un œuf entier.
Au téléphone, chef Damien de la chaîne YouTube 750 grammes.
Et après, avec la pointe d'un couteau, on va quadriller la galette.
Ah bah du coup, j'ai fait le contraire.
Ces recettes en ligne de galettes cartonnent cette année. Les visionnages ont augmenté de 32% par rapport à l'an dernier.
On sent qu'il y a vraiment de l'appétence pour les gestes techniques, pour la faire la mieux possible. Et je vois bien sur Instagram ou Facebook tous les partages de galettes maison. C'est incroyable.
Et avec celle de Jessica sur Europe1.fr, ça fait une de plus.
Ouais. C'est bonne.
On est d'accord, hein. Elle est bonne. Hein.
Ah oui, elle
on ne parle
bonne,
pas
hein.
La bouche pleine, Pierre Herbulot.
En tout cas, ça met l'eau à la bouche, hein. C'est croustillant.
Vous faites la galette, vous, à la maison, Sophie ?
Non, mais je vais peut-être m'y mettre.
Bon, Sophie Echen pour le journal de 6h.